Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Écoute un métier. Mon deuxième invité de cette nouvelle année est Naïma Azeb. Elle est directrice adjointe dans un lycée de Créteil. Je m'excuse par avance si parfois il y a des blancs ou des coupures, ce sont les aléas des interviews en distanciel. Je te souhaite en tout cas une bonne écoute. Madame Naïma Azeb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes actuellement personnel de direction dans un établissement scolaire du 93, donc de l'Académie de Créteil. Plus précisément, vous occupez le poste de directrice adjointe d'un lycée général et technologique. Par le passé, vous avez été professeure de lettres, histoire, géographie et de MC pendant 11 ans et formatrice à la CASNAV. Il s'agit du Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des familles et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Tout cela avant d'occuper le poste de professeure coordonnatrice UPE2A pendant un an. Donc c'est une unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Cela fait donc 3 ans que vous êtes directrice adjointe d'un établissement de 1600 élèves. Est-ce que j'ai tout bon ?
Presque tout bon parce que j'étais professeure en UPE2A en même temps que mes missions de professeure de lettres, histoire, géographie, éducation morale et civique. Être professeure en UPE2A fait partie de la mission d'enseignement. Donc, j'ai pas été professeure d'UPE2A pendant un an, j'étais professeure en UPE2A pendant toute ma carrière d'enseignante, en même temps que l'enseignement des lettres, histoire, géographie, avec des classes dites ordinaires.
D'accord, très bien. Et donc, ce n'est pas un poste auquel tous les professeurs ont accès ?
Non. Pour être enseignant en UPE2A, il faut participer à un mouvement sélectionné pour être ensuite positionné sur un dispositif spécifique. Donc, en règle générale, sur le service d'un enseignant, on fait 12 heures en UPE2A et le reste de notre service, on le fait avec ce qu'on appelle une classe ordinaire. On ne peut pas faire l'intégralité de son service d'enseignant avec un dans le cadre d'un dispositif.
D'accord.
C'est pour ça que je vous dis que j'ai été enseignante en UPE2A et en classe ordinaire en même temps.
D'accord, je pensais que les deux ne pouvaient pas se chevaucher. Et vous avez donc le CAPES ou l'agrégation ?
Alors moi, j'ai le CAPLP, donc c'est la certification pour enseigner en lycée professionnel.
D'accord. Okay.
C'est une troisième voie de concours. Alors, c'est vrai que les étudiants, lorsque j'étais étudiante à l'université, je ne savais pas que ce concours existait. Donc, je faisais mes études d'histoire-géographie et comme beaucoup d'étudiants, j'envisageais de passer mon CAPES ou l'agrégation. Et j'avais une de mes sœurs qui enseignait en lycée professionnel qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'envisages pas le concours en lycée professionnel ?» Donc, je ne savais pas qu'il y avait un concours spécifique pour enseigner en lycée professionnel. Je me suis intéressée à la question, c'est ce concours-là que j'ai préparé.
Et donc, est-ce que ce concours n'ouvre que les portes des lycées professionnels ou est-ce que vous aurez pu aussi enseigner pour, par exemple, des troisièmes prépa métiers ?
Alors, il ouvre essentiellement les portes pour le lycée professionnel. On peut intervenir dans des dispositifs, mais ça sera toujours en plus du service, en cas de besoin. Il y a très peu d'enseignants de lettres, histoire, géo qui interviennent en collège. Par contre, on peut avoir un dispositif de troisième prépa pro en lycée professionnel et là, on peut intervenir. Mais on est affecté en lycée professionnel.
D'accord.
Ce concours-là.
Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur votre formation et ce que vous avez appris lors de vos études ?
Très bien. Donc après, j'ai démarré, j'ai passé un bac scientifique, option SVT, à l'époque ça s'appelait comme ça. J'ai ensuite fait une classe préparatoire littéraire pendant 2 ans. Donc je dirais que ces années de classe préparatoire m'ont permis d'acquérir une culture générale de base, des compétences en analyse, synthèse, rédaction, organisation. Et je dirais que c'est une formation qui demande beaucoup de rigueur, donc une organisation dans le travail, dans la rigueur, le développement de l'esprit critique aussi, c'est important. Mais je dirais que surtout, c'est une méthode de travail. Une méthode de travail, c'est un apprentissage qui sert tout au long de la vie, hein, ce que j'ai pu faire en classe préparatoire m'a servi, même lorsque j'ai préparé, par exemple, plusieurs années plus tard, mon concours de chef d'établissement. Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire, une maîtrise d'histoire contemporaine. Je dirais qu'on retrouve un petit peu la même dynamique qu'en classe prépa, avec cet esprit d'analyse, de synthèse, la capacité à développer son esprit critique. Toujours cet approfondissement de la culture générale qui pour moi est fondamental, avec cette compréhension des dynamiques historiques et géographiques. Voilà, une sorte d'élargissement aussi sur le monde. Et toujours l'organisation dans le travail, la rigueur et peut-être quelque chose en particulier en histoire géographie, c'est le sens de l'engagement. Être sensibilisé aux enjeux contemporains. Je pense que ça, c'est une particularité de cette filière-là. J'ai aussi, ensuite fait mon master, ça s'appelle Master 2, mais à l'époque, ça s'appelait un DEA, dans le cadre du programme Erasmus. Donc, je suis partie en Erasmus à Valence, en Espagne. Donc, ça m'a permis de développer mes compétences en langue étrangère, de découvrir un nouveau pays, un mode de vie différent, de me plonger dans l'interculturalité, dans cette sorte de plurilinguisme aussi, d'être en contact avec un réseau d'étudiants du monde entier. Donc du réseautage aussi, c'est bien à cet âge-là. J'ai encore aujourd'hui des amis qui vivent aux États-Unis, au Mexique, en Suède ou ailleurs, même si les liens ne sont pas très forts, mais ils existent toujours. Et je dirais que cette année Erasmus m'a confortée dans l'idée que je suis capable de m'adapter à toute situation, par exemple, ça a aussi beaucoup contribué à la confiance que j'ai pu, la confiance en soi, c'est quelque chose d'important à cet âge-là. Je dirais qu'essentiellement, c'est ça. Et ça m'a ouvert les portes sur une discipline que je ne connaissais pas, le français langue étrangère.
Oui, le fleu.
Le FLE, le fameux FLE. Donc quand je suis revenue, je me suis spécialisée en FLE. J'ai ajouté une année j'ai refait une licence de lettres, mention FLE.
D'accord.
Voilà, pendant un an. Et ensuite, j'ai passé mon concours de lettres, histoire, géographie, EMC. Donc c'est vraiment polyvalente. J'avais vraiment les deux spécialités. J'avais une appétence pour les lettres et de l'appétence pour l'histoire géographie. C'est pour ça que je me suis orientée vers ce concours-là. Parce que le CAPES, on passe un CAPES d'histoire géographie, on passe un CAPES de lettres, mais on passe un CAPLP lettres histoire géographie EMC. Donc j'ai eu mon concours et tout de suite, au moment de. J'ai fait une année de stage. Où là, je n'étais pas en dispositif spécifique, mais lors de cette année de stage, j'ai continué à me perfectionner en français et langue étrangère. L'année ensuite de ma titularisation, j'ai demandé un poste spécifique. Au moment des mutations, j'ai demandé à être affectée en poste spécifique en UPE2A, et je l'ai obtenu. Je l'ai obtenu à la condition de passer ce qu'on appelle une CCFLS. Une certification en français langue seconde. Donc j'ai été nouvellement nommée dans un établissement, j'ai passé une année de formation supplémentaire pour passer cette certification complémentaire que j'ai obtenue et c'était la condition pour que je puisse garder mon poste. Et ensuite j'ai enchaîné 7 à 8 années, 7 ans dans cet établissement scolaire qui était situé à Champigny-sur-Marne où j'enseignais en UPE2A et en classe ordinaire. Et j'intervenais aussi dans ce qu'on appelait des modules de renforcement linguistique dans le cadre de la MLDS. La MLDS, c'est une mission académique qui est chargée d'apporter un soutien aux élèves décrocheurs, mais aussi aux élèves qui arrivaient de l'étranger, qui n'avaient pas d'affectation en établissement scolaire. Donc j'intervenais sur ces dispositifs-là en plus de mon emploi du temps. Et à un moment donné, j'ai aussi été recrutée comme professeur testeur dans ce qu'on appelle une cellule de positionnement. Au CIO de d'Ivry-sur-Seine, une cellule de positionnement, ça se passe en CIO, une famille quand elle arrive de l'étranger. elle prend contact avec le CIO, on les accueille et on évalue le niveau scolaire des élèves avant de leur proposer une affectation à un établissement scolaire. Donc j'intervenais aussi dans le cadre de ce dispositif, ce qui m'a ensuite amenée, je poursuis mon parcours, hein, à postuler en tant que formatrice au CASNAP.
Vous avez toujours eu envie d'être professeur, vous avez toujours eu cette envie de vouloir aider les autres?
Non, j'ai eu plusieurs envies hein, au cours de mes années lycée. C'était plutôt très, très varié, surtout que j'ai passé un bac scientifique. Donc au départ, je me projetais sur des métiers comme j'ai voulu faire plein de choses. J'ai voulu être architecte, j'ai voulu être sage-femme, j'ai voulu travailler dans le bâtiment. Je dirais que j'ai une personnalité où je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc ça a été, c'était plutôt difficile pour moi de choisir une carrière, mais j'avais remarqué que j'aimais étudier. J'aimais étudier, j'aimais ce rapport à la lecture, à l'étude. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers ces métiers-là. Et puis surtout, en parallèle de mes études, je travaillais beaucoup en éducation populaire. J'étais animatrice de centres de loisirs, dans les centres de vacances. J'ai beaucoup travaillé aussi dans une municipalité au service jeunesse. À un moment donné, j'ai hésité entre une carrière en éducation populaire et une carrière en éducation nationale.
Et donc, suite à ces années, pourquoi vous êtes devenue directrice adjointe? Est-ce que ça a été une envie d'évoluer, de se challenger pour passer un concours et donc rentrer dans une direction d'établissement?
Je dirais que c'est une continuité de parcours parce que après avoir été enseignante, j'ai été détachée pendant 4 ans au CASNAP, où là j'ai travaillé sur la politique académique de l'accueil et la scolarisation des élèves allophones. Donc c'était un autre niveau de responsabilité et un autre niveau de réflexion. Donc une fois qu'on commence à travailler comme ça sur de la politique, c'est difficile de retourner dans le cadre de la classe. Seulement, on a l'impression d'être un peu limité. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans au CASNAV où j'ai travaillé sur cette politique académique avec beaucoup de formations d'enseignants, ce qu'on appelait aussi les aides négociées d'établissement. J'allais en établissement scolaire pour favoriser l'inclusion des élèves, accompagner des ouvertures du PE2A. Et ensuite, j'ai dû retourner en établissement scolaire à la suite d'une suppression de poste. Je suis retournée pendant un an en établissement scolaire. Là, je me suis dit, j'aime toujours enseigner, ça m'a fait du bien, mais je veux plus. Je veux pouvoir contribuer à un autre niveau, à la réussite des élèves et plus simplement ce que je peux faire dans le cadre de la classe avec des élèves. C'est plutôt ça le déclic. Ce qui fait que j'ai passé ensuite mon concours de chef d'établissement assez rapidement parce que j'avais envie d'endosser des responsabilités plus grandes.
Vous êtes préparé seul ou dans le cadre d'une préparation?
Je me suis préparée toute seule parce que j'avais raté les inscriptions à la formation. Il faut savoir que j'avais. Ah, je vous ai perdu de. Ouais, j'avais raté l'inscription à la formation. Donc, parce que j'avais changé d'académie, j'avais demandé une mutation interacadémique, j'étais passée de l'académie de Créteil à l'académie de Paris. Donc, je ne pouvais pas m'inscrire à une préparation concours. Et surtout que j'ai décidé de passer mon concours en cours d'année, au mois d'octobre. Je me suis inscrite au concours fin octobre, donc j'ai commencé à préparer mon concours novembre, décembre. L'écrit avait lieu en janvier. Donc au début, je me suis dit, je vais faire un galop d'essai, je vais voir ce que ça donne. Et le galop d'essai s'est transformé en essai. Je m'y attendais pas, je dois vous dire. Donc c'est ça, j'ai préparé toute seule l'écrit. Et ensuite, lorsque j'ai appris que j'étais admissible, on publie une liste des admissibles et j'ai une copine, une ancienne collègue que j'avais pas vue depuis 10 ans, qui m'a dit est-ce que c'est toi, Anaïma Azep, qu'on voit sur la liste des admissibles? Je dis oui, on s'est appelé. Et elle m'a dit mais tu peux pas préparer l'oral toute seule, c'est impossible. Mais elle m'a intégrée dans son groupe de travail. Donc l'oral, je l'ai travaillé avec cinq collègues et on l'a tous eu. tous les 5, on a eu notre concours de chef d'établissement et aujourd'hui on est de très bons amis et on continue à se soutenir dans nos missions. Donc c'est un concours qu'on peut préparer tout seul pour l'écrit, mais pas pour l'oral.
Pas pour
C'est
l'oral.
impossible, pas pour l'oral.
C'est un concours assez sélectif tout de même.
Oui, c'est sélectif parce que malgré tout, il y avait de moins en moins de postes. Donc l'année où je l'ai passé, il y avait 600 postes au concours, par exemple. Donc je sais pas, peut-être qu'on devait être 5 ou 6 000 à le passer, hein. Donc pour moi, ça reste sélectif, mais c'est un concours particulier. Vous avez par exemple des personnes qui sont agrégées, mais qui ne l'obtiennent pas. C'est pas une question de compétences disciplinaires. Les attentes se situent ailleurs. Il faut avoir un esprit d'analyse, un esprit synthétique, un sens du terrain assez particulier. C'est un concours particulier. Un concours particulier. On ne cherche pas des érudits, hein. On cherche des gens qui ont une capacité à résoudre des problèmes.
D'accord, donc plus un profil lié, bah comme vous avez dit, quelqu'un qui a peut-être eu un peu plus d'expérience de terrain lié aux politiques publiques.
Voilà, il faut avoir une bonne connaissance du système scolaire, des politiques éducatives, mais aussi avoir un ancrage particulier sur ce qui se passe dans un établissement scolaire et sur comment on peut mobiliser différentes personnes pour trouver une solution à un problème particulier. Je pense que c'est ça. Et puis c'est un concours aussi, on cherche des personnalités. Parce qu'être chef d'établissement, c'est être seul et être exposé. Donc il faut avoir une personnalité pour porter une politique et mettre en place une politique dans un établissement scolaire.
Et actuellement, quelles sont vos tâches?
Alors, les tâches d'un chef d'établissement sont très 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 variées. Je dirais que ça peut. Alors, déjà, il faut savoir qu'un chef d'établissement représente l'État. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est garant il représente l'État dans son établissement scolaire et à l'extérieur. Donc, ça. C'est la première chose à savoir et c'est la première chose qu'on apprend quand on passe notre concours. Être chef d'établissement, c'est représenter l'État dans un établissement scolaire auprès de tous ses usagers. La première responsabilité, c'est de garantir la sécurité des personnes et des biens. Donc c'est la première mission, faire en sorte que les personnels, les élèves, les familles puissent être en sécurité dans un établissement scolaire. Donc c'est tout ce qui touche à la sécurité. Que ce soit la sécurité dans des locaux, mais aussi le bien-être au travail, le climat scolaire. Donc parmi le climat scolaire, on a par exemple tout ce qui est lutte contre le harcèlement scolaire. Ça fait partie vraiment de nos missions principales. Ensuite, on a ce qu'on appelle le pilotage pédagogique. Donc c'est porter et piloter une politique d'établissement. Ça consiste à élaborer un projet d'établissement qui est une déclinaison du projet académique, qui est lui-même une déclinaison des politiques ministérielles. Donc, c'est faire en sorte qu'on puisse appliquer une politique locale qui tient compte des données particulières d'un établissement scolaire. Il y a ça. Je vais vous donner des exemples, hein. C'est aussi faire en sorte qu'il y a le bon respect des horaires, le respect des programmes scolaires. Organiser les emplois du temps, présider les conseils pédagogiques, les conseils de classe. Mais à chaque fois, il y a un seul et unique objectif, c'est la réussite des élèves. Vous verrez tout le temps, notre principal objectif, c'est la réussite des élèves. Et aussi, faire en sorte que les personnels travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, une grosse partie de gestion administrative et financière. Donc dans la gestion administrative, c'est tout ce qui concerne, ça peut être tout, ça peut être l'organisation des emplois du temps, les modifications d'emploi du temps, la gestion des examens, les affectations, ça peut être tout, hein, les sorties scolaires, la gestion de projet, la gestion des ressources humaines, on a aussi tout ce qui concerne la gestion matérielle d'un établissement scolaire. On a aussi tout ce qui est budget. C'est vraiment très varié. On a aussi comme mission ou tâche tout ce qui concerne communication et représentation. Ce que je vous disais au début, on représente l'État. Donc, on représente l'État auprès des collectivités territoriales, par exemple. Donc, dans un lycée, c'est la région. On a aussi les relations avec les municipalités, la relation avec le rectorat, la DSDEN. Donc, tout ça, ce sont nos premiers partenaires. Donc, il y a ça. Et les familles. Les familles, très, très important. Et tout ce qui est travail partenarial avec. En fonction des problématiques de terrain. Je vais vous donner un exemple. Si on est dans un établissement scolaire où il y a beaucoup de décrochage scolaire, on va essayer de trouver des partenaires pour travailler sur cette problématique-là. Si on a des problèmes d'élèves qui présentent des problématiques de santé mentale, on va essayer de trouver des partenaires pour travailler sur ce domaine-là. Tout dépend de ce qui se présente dans un établissement scolaire.
À ce propos, est-ce que vous êtes encore souvent en contact avec les élèves ou les familles?
Tous les jours, tous les jours. C'est une idée reçue de croire qu'un chef d'établissement n'est pas en contact avec les élèves. Au contraire, alors on n'a pas cette relation pédagogique d'un enseignant avec un élève, mais on les voit très régulièrement. Déjà, on les voit le matin quand on fait l'accueil à la grille. Après, ponctuellement dans la journée, c'est vrai que les élèves, souvent, quand on les voit, ce sont des élèves qui dysfonctionnent. Sinon, ils ne sont pas dans nos bureaux. Un élève qui fonctionne bien, on ne le voit pas. On voit souvent les élèves qui dysfonctionnent, donc on travaille avec eux sur la motivation scolaire, sur la résolution de leurs problématiques ou de leurs problèmes. On est surtout sollicité. Et aussi pour accompagner les élèves dans leur projet d'orientation. Donc on travaille aussi sur Parcoursup, l'orientation des élèves. On rencontre les familles aussi qui nous sollicitent énormément quand ils rencontrent un problème, quand il y a des difficultés particulières. Tous les jours, on reçoit des familles et des élèves. Tous les jours.
Et est-ce qu'il existe des différences au niveau de la gestion entre la partie lycée général et lycée technologique?
Alors, les missions restent les mêmes quel que soit l'établissement. On va dire ça comme ça, on va dire les missions d'un chef d'établissement sont les mêmes, que ce soit au collège, au lycée général et au lycée technologique ou professionnel. Mais ensuite, dans la mesure où on porte une politique d'établissement, on a des adaptations locales. Être chef d'établissement dans un lycée professionnel, c'est pas être chef d'établissement dans un collège. Il y a des spécificités du lycée professionnel, il y a des spécificités du lycée général et technologique. Donc, par exemple, dans un lycée professionnel, on va travailler peut-être davantage sur l'insertion professionnelle des jeunes, tandis que dans un lycée général et technologique, on va s'intéresser un peu plus sur le parcours d'orientation. C'est un exemple général, hein. Dans un lycée professionnel, on va avoir peut-être un taux de décrochage scolaire beaucoup plus fort que dans un lycée général et technologique. Tout dépend des problématiques de l'établissement.
Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le travail de la direction avec les collectivités territoriales et autres acteurs locaux?
Alors, ce sont nos premiers partenaires. Par exemple, dans un lycée, la région, elle attribue un budget. Donc, ce budget, il y a un travail partenarial autour de l'utilisation du budget, comment il a été utilisé, on doit rendre compte. Mais la relation, par exemple, avec la région, c'est tout ce qui concerne le bâtiment, le bâti. L'entretien des locaux, la gestion aussi des personnels rattachés à l'établissement, les personnels régionaux rattachés à un établissement, donc les agents, la maintenance du bâtiment, la cantine. Donc on va avoir ce travail-là avec la région. On peut aussi être en contact avec la région pour certains projets, puisque la région finance certains projets dans les établissements scolaires. Mais je dirais que la plupart du temps, pour la région, c'est budget. Et gestion matérielle. Concernant les relations avec la municipalité, Alors, je dirais que c'est complètement différent parce que la municipalité n'entre pas du tout, ne participe pas du tout à la gestion budgétaire d'un établissement scolaire. Elle peut financer quelques projets, par exemple. C'est surtout pour avoir un ancrage territorial. On ne peut pas piloter un établissement scolaire sans tenir compte de son environnement. Ça serait être dans l'erreur. Nos élèves vivent sur un territoire. Ils sont en relation avec une municipalité, avec des partenaires territoriaux, donc il faut faire en sorte de s'ouvrir sur ce territoire et de créer des liens, parce que en dehors de l'établissement scolaire, nos élèves vont aller sur des structures sportives, culturelles, c'est leur vie en fait quotidienne sur un territoire, et il faut s'intéresser à ça. Donc on peut avoir par exemple des problématiques territoriales bien spécifiques. Je vais vous donner un exemple, en Seine-Saint-Denis, mais aussi ailleurs, on a des problèmes de rixes. Des rivalités de territoire, des élèves qui vivent dans un quartier qui vont se confronter à des élèves qui vivent dans un autre quartier alors qu'ils vivent dans la même ville. Ce travail-là, on est obligé de le faire avec nos partenaires municipaux. C'est très très compliqué de gérer les phénomènes de rixes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de solution si ce n'est le travail partenarial. Comprendre pourquoi tel quartier ne s'entend pas avec un autre quartier, des fois on ne sait pas. Mais les municipalités le savent. Et ensuite, on trouve des partenaires locaux comme les éducateurs de prévention spécialisés, les associations de prévention spécialisées. On ne peut pas agir tout seul face à des problématiques aussi importantes. Un établissement scolaire ne se pilote pas sans partenaire, c'est impossible.
Et quelles sont les différences de mission entre un directeur adjoint et un directeur d'établissement?
Alors, on a le même concours, on a le même statut, mais la différence, elle se fait sur les rôles et les responsabilités. Et puis, oui, c'est plutôt ça. Et d'ailleurs, c'est très compliqué, ce qu'on appelle le duo adjoint-chef, c'est particulier à cause de ça, parce que souvent, on a le même concours, le même statut. Mais la responsabilité, le chef, ça reste le chef. Il est le principal interlocuteur. C'est lui qui est nommé pour piloter un établissement et il est secondé par un adjoint. C'est plutôt ça la nuance. C'est qu'on vient seconder un chef dans une politique qu'il souhaite mettre en place. Ensuite, un duo chef-adjoint qui fonctionne bien, c'est un duo qui fonctionne dans la concertation. Finalement, un chef d'établissement ne peut pas piloter tout seul, il doit le faire dans la concertation. Il doit s'appuyer sur son adjoint qui le seconde, j'insiste bien sur ces mots, pour construire ensemble une politique. Parce que dans le quotidien, c'est ensemble qu'ils sont porteurs d'une politique. Donc en gros, je dirais que le chef d'établissement a surtout des. Il est surtout sur la construction de cette politique, dans le travail aussi partenarial. Tandis que l'adjoint, je généralise un peu, hein, parce que dans le quotidien, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se présente. Hein. Mais tandis que l'adjoint, il est plutôt dans la politique interne, dans l'organisation quotidienne d'un établissement scolaire. Il fait le suivi des élèves, suivi des enseignants. C'est plutôt le quotidien. Mais il participe à l'élaboration de cette politique-là en concertation. En revanche, s'il y a mésentente entre l'adjoint et le chef sur un point, le dernier mot appartient au chef. Compte.
Justement, est-ce que vous êtes soumise à une inspection ou à un entretien annuel avec un supérieur hiérarchique?
Oui. Alors, on a ce qu'on appelle des lettres de mission. D'ailleurs, dans cette nuance chef-adjoint, c'est le chef d'établissement qui a des objectifs. Il doit, quand un chef arrive dans un établissement, il doit faire ce qu'on appelle un diagnostic. À partir de ce diagnostic, va être élaboré son contrat d'objectifs. Donc, les objectifs qu'il doit atteindre sur une période de 3-5 ans, par exemple. Et de ce contrat d'objectif, on a la lettre de mission de l'adjoint. C'est une déclinaison. En fait, c'est une répartition des tâches. C'est une répartition des tâches, c'est une délégation de mission à l'adjoint. Et en fin d'année scolaire, on rend un rapport d'activité. Et ensuite, on a une évaluation avec notre supérieur hiérarchique à la DSDEN, avec le directeur académique ou directeur académique adjoint.
Vous avez déjà un peu répondu à ma question lorsqu'on était concentré sur tout ce qui était passage de concours, mais quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier?
Alors, je dirais qu'elles sont. Ce sont presque les mêmes qu'un enseignant, parce que de toute manière, la plupart des chefs d'établissement ont été enseignants ou CPE, sont presque tous issus du corps enseignant, de CPE aussi, de quelques gestionnaires. Mais je dirais qu'il faut d'abord être porteur de valeurs. Ça, c'est indispensable. Il faut avoir une grosse capacité de travail aussi, parce qu'un chef d'établissement travaille beaucoup, travaille pas moins de 10 heures par jour, hein, donc des fois c'est des semaines à 50, 60 heures. Donc une grosse capacité de travail, être capable d'être organisé, rigoureux, donc ça pour moi serait la troisième compétence, hein. Donc porteur de valeur, capacité de travail, de la rigueur de l'organisation, sinon on est très très vite débordé et c'est sans fin. Il faut aussi avoir des compétences relationnelles, parce qu'on travaille avec des élèves, des enseignants, des familles. Il faut avoir le sens de la négociation. On gère des conflits, par exemple, aussi. Donc ça, pour moi, compétences relationnelles et communicatives, c'est indispensable. Et enfin, je dirais une capacité à gérer le stress. C'est un métier stressant. C'est un métier où il faut faire preuve de flexibilité et de s'adapter au quotidien.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
C'est le fait de jamais savoir comment va se passer ma journée. C'est à la fois cette. Oui, c'est le fait de se dire que toutes les journées sont différentes. Alors, on peut se plaindre de la charge de travail, mais en même temps, c'est ce qui me plaît. C'est le fait de, à la fois, faire quelque chose de très simple. Je vais vous donner un exemple, hein. Tout bateau, il manque du pain à la cantine. Ben, on va aller chercher les baguettes. C'est rien. On va envoyer quelqu'un chercher des baguettes. C'est tout bête, mais c'est important. Et en même temps, dans la même journée, on peut gérer une bagarre, on peut gérer un conflit prof-élève, on peut présider un conseil de classe. On est dans les extrêmes. On est à l'extrême, on est dans le quotidien, il manque du pain ou il n'y a plus de bouteille d'eau. Et la mise en œuvre d'un conseil pédagogique, d'un conseil de classe. C'est le
Donc,
grand écart.
ce qui vous plaît aussi, c'est le fait que ce soit très concret, vous menez des actions qui, à la fin, auront des effets que vous pouvez voir.
Exactement, ça peut être très concret. Quand on organise un examen, par exemple, ça prend du temps, mais on en voit le résultat. Ça marche ou ça marche pas. Quand on élabore des emplois du temps, ça prend du temps, mais ensuite les emplois du temps fonctionnent ou fonctionnent pas. Ça aussi, c'est plaisant de voir le résultat de son travail aussi.
Et donc, à contrario, qu'est-ce qui vous plaît le moins?
C'est la charge mentale associée à ce métier. La charge mentale, le fait que ça se termine jamais presque, que les journées sont lourdes. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est plaisant et c'est difficile en même temps. Faire des semaines à 60 heures, par exemple, des fois c'est usant. Dire bah stop, j'arrête. Là j'en peux plus, je rentre chez moi. Ou ce soir, je vais pas dépasser 19 heures. Ce week-end, je ne touche pas à mon ordinateur. Il faut avoir cette capacité à se préserver. Je dirais que le plus difficile, c'est ça, c'est de se mettre des limites, préserver sa santé mentale aussi.
Est-ce que vous avez un meilleur souvenir à nous faire partager?
J'en ai plein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un meilleur souvenir? Je ne saurais pas dire. Je sais qu'en tout cas, tous les bons souvenirs que j'ai, ils sont liés à des relations qui ont dépassé le cadre professionnel, je dirais. C'est quand en fait une relation de confiance s'est installée. Je vais vous donner des exemples parce que finalement, un bon souvenir enseignant, formateur ou chef d'établissement, à chaque fois, c'est lié à quelqu'un chez moi. Donc, enseignante, c'est lorsqu'un élève me dit, vous allez où en vacances, madame, cet été? Et que je lui réponds, je vais au Sénégal. Et il me dit, madame, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez voir ma mère au Sénégal. Je ne l'ai pas vue depuis 5 ans. Et j'y suis allée. Donc ça, c'est un souvenir extraordinaire parce que cet élève m'a ramené une petite valise pour sa maman qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans. Je suis allée au Sénégal, j'ai été accueillie par sa mère. Pour moi, ça, c'est un souvenir extraordinaire. Et avec
Oui.
cet élève-là, je l'ai revu l'année d'après. Et c'est devenu un élève qui aujourd'hui, il est marié, il a ses enfants, m'invite à son mariage. Pour moi, ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse le cadre pro, mais qui marquera ma carrière, par exemple. En tant que formatrice, c'est à la fois être formatrice, construire un réseau, mais aussi se faire des amis qui sont encore aujourd'hui présents ou présentes dans ma vie, alors qu'au départ, je les accueillais dans leurs premiers pas dans l'enseignement. J'ai eu beaucoup. Aujourd'hui, j'ai des amis que j'ai accompagnés dans leur première heure de cours, par exemple. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable pour moi. En tant que chef d'établissement, on va être sur un autre registre. Je vais avoir une élève qui va m'écrire un petit mot et qui va me dire merci de m'avoir donné ma chance. Pour moi, ça, c'est extraordinaire. Ou des collègues, la construction d'un réseau de collègues où il y a une solidarité incroyable qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est plutôt ça, pour moi, les bons souvenirs, plus qu'autre chose. C'est le fait de construire des relations sur le long terme. Pour moi, c'est ça.
Oui, comme tous les métiers liés un peu à l'enseignement ou à l'encadrement sont vraiment des métiers qui mettent l'humain au centre de toute chose.
Exactement. Un bon souvenir, ce n'est pas forcément un pourcentage de réussite à un examen. C'est la relation. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me suis dit, c'est la relation de confiance. C'est aussi un prof qui vient dans votre bureau et qui vient se confier à vous, pas forcément pour des problèmes pro, mais parce qu'il y a des difficultés particulières, qui va s'effondrer, pleurer, et que vous allez avoir cette capacité à le consoler et à lui donner l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Ça va être ce genre de choses. Chez moi, ça va être ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout
Oui. Eh bien, madame, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette interview. C'était extrêmement intéressant.
Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir donné la parole et d'avoir pu présenter ce beau métier, puisque je m'adresse à de jeunes étudiants. J'aimerais les rassurer en leur disant qu'en fait, on peut démarrer un métier et on ne sait pas vers quoi il va nous mener. Parce que quand j'ai passé mon concours quand j'étais étudiante, je me projetais en tant qu'enseignante, mais j'avais jamais imaginé être chef d'établissement. Voilà. Là, je suis chef d'établissement aujourd'hui. C'est aussi peut-être qu'un passage, parce qu'il y a aussi d'autres carrières après. Il y a d'autres missions possibles à travers ce métier de chef d'établissement. Il y a d'autres perspectives aussi qui peuvent s'ouvrir. Donc finalement, une carrière, c'est à l'image d'une vie, hein. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, on ne fait plus le même métier toute une vie. Je crois pas. J'y crois pas trop. J'ai vu beaucoup de gens changer, se réorienter. Et c'est une chance qu'on a, la chance de pouvoir changer quand on en a envie. C'est possible.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce beau message.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt!